Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et bonjour Tequila Tex.
Salut.
Tequila Tex, on va parler de la pop culture.
Maintenant j'ai des lunettes de lecture.
Oh, tu peux les mettre en bas de ton nez et faire des mots croisés.
Exactement, donc un monde qui s'était un peu fermé se réouvre à moi.
Je suis donc prêt
maintenant,
pour...
Maintenant il reste juste à trouver le temps.
Oui.
Ça c'est...
J'allais dire, il reste plus qu'à Jean-Gérard Martin à sortir le nouveau tome de Game of Thrones, et comme ça, t'aurais une raison de te remettre à la lecture.
Non, mais j'ai déjà une liste de trucs, j'ai déjà plein de cadeaux qu'on m'a fait ces dernières années que j'ai pas encore ouvert.
Est-ce qu'il y a un livre où t'as vraiment hâte, genre, j'ai hâte de me remettre à lire parce qu'il y a au moins ce livre qui me fait de l'œil de fou?
Ouais, j'ai une série, un trio de bouquins par des humoristes qui faisaient partie d'une troupe qui s'appelle The State, dont j'ai déjà parlé ici, et qui sont des humoristes américains que je suis depuis les années 90, quoi.
Ok.
Et qui sont tous devenus des stars et qui jouent dans Brooklyn Nine-Nine, dans tous ces trucs-là
okay,
aujourd'hui.
Ok, trop cool.
Notamment, dans Brooklyn Nine-Nine, il y a Joe Letruglio,
oui,
Ken Marino, tous ces mecs-là, enfin voilà, tout est, c'est des filles et des
garçons. Grands noms de la comédie.
Qui
vous ne connaissez
des...
peut-être pas leur nom, mais si vous voulez, vous connaissez leur tête et vous allez faire ah mais c'est ce gars-là.
Voilà.
Bah, par exemple Nodus sur le chat qui fait ah mais oui, voilà, vous allez faire ça.
Donc Nodus, Nodus il connaît, je crois. Enfin en tout cas The State, j'adore et ils ont écrit des bouquins. On m'a offert des bouquins sur le sujet et. Faut que je les lise.
Un jour, à la retraite, on aura.
C'est l'équipe qui a fait Wet Hot American Summer aussi.
Ah yes, qui est un double film avec Amy Poehler, Paul Rudd, voilà, beaucoup de monde du Saturday Night Live.
Ouais, bien sûr.
C'est ton univers de la comédie américaine, un peu absurde,
j'adore,
quoi.
J'adore.
Très bien. On va donc parler des films, des séries, des jeux vidéo et de la musique qui nous hype pour 2024. Donc c'est pour ça qu'on fait une intro un peu courte par rapport à d'habitude sur cette chaîne, parce que je pense que ça va déjà nous occuper un bon moment. On s'est pas concerté sur les films, les séries, etc. qu'on va vous conseiller. On sait que moi, attention, ne tombez pas de votre chaise, j'écoute pas beaucoup de musique, donc j'aurais probablement pas trop à dire là-dessus. Et que toi, tu joues pas trop aux jeux vidéo.
Non.
Donc voilà, il y a peut-être des sujets où il y en aura l'un plus en lead que l'autre. Et je vous ai demandé aussi sur Instagram, qu'est-ce qui vous chauffait? Donc j'ai noté vos suggestions et j'ai mis des petites coches pour savoir combien de fois telle personne a mentionné House of the Dragon, combien de fois Dune 2 a été mentionné comme film de l'année, etc. Moi, j'ai pris mes petites notes par ordre de quand est-ce que ça sort. Toi, je sais pas, mais on va alterner. Et pas tout le temps, parce qu'on a... Moi,
non,
j'ai pas l'ordre. Ok, bah c'est pas grave. On va faire un chacun, tout simplement. Et alors,
de toute façon,
parfois,
on en a plein en commun, c'est sûr.
On regardera des bandes annonces, c'est aussi possible. Voilà, si on a vraiment envie, on peut. Tout à fait. Il y a de quoi.
Si body problem, il faut la regarder.
Voilà, pour quand
parce
ça vaut le coup.
Pour se rendre compte du nombre d'acteurs de Game of Thrones qui jouent dans cette série. Quoi.
Trop bien. On les regardera pas toutes, parce qu'on va pas vous parler de beaucoup de choses, mais on en regardera parfois. Voilà, j'espère que je vais pas me faire striker sur YouTube parce que j'aurais mis des bandes annonces. On va commencer.
Sur YouTube, on s'en fout.
Bah non, il y aura un replay sur YouTube aussi.
Oh.
Et oui, attends, on est partout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Elle était un peu dead parce que j'y mets que mes contenus séries télé, mais toutes nos vidéos sur House of the Dragon sont sur YouTube.
C'est pas vrai?
Et oui.
Génial.
Et notre épisode spécial sur les 10 ans du Red Wedding, qui était bien aussi.
Ah ouais.
Je l'avais un peu oublié, je suis retombée dessus, j'étais là. Mais oui, on avait fait ça.
Putain.
Un kiff. Voilà. Comme House of the Dragon n'est pas revenu tout de suite, on a trouvé d'autres raisons de se croiser.
Je m'abonne à ta chaîne YouTube.
Bah n'hésite pas, mets ton petit follow, active la cloche comme on dit. On commence par les films, ça te va?
Ok.
Ou par les séries?
Non, ce film.
Allez, les films. Eh ben, à toi l'honneur. C'est quoi le premier film que t'as noté comme film qui te tente en 2024? Sachant que on parle beaucoup séries, mais pas beaucoup ciné. Donc au final, je sais pas trop ce que t'aimes bien au ciné.
En fait, il y en a. En fait, je suis de moins en moins cinéphile.
Ok.
Et j'ai lâché l'affaire d'être un vrai cinéphile, en fait.
Est-ce que t'as ce truc où t'as du mal à te motiver à regarder un film de 2 heures,
ouais,
mais tu regardes quand même une saison entière de série télé à la place? C'est
100%.
Trop bizarre.
Je préfère la narration série. Donc voilà, j'ai du mal à. Et puis de plus en plus, j'ai du mal avec les films trop bien, qui du coup me plonge dans un truc où je vais pas m'en sortir et je vais pas arrêter d'y penser et où ça va m'affecter.
T'as pas
en
le
fait,
temps.
En un fait. Jour j'ai regardé Enter the Void.
Okay.
Et ça m'a déprimé pendant 3 mois.
Ouais, ça c'est Gaspard Noé. Ouais.
Et donc je me suis dit pourquoi je m'inflige ça en fait. Et donc j'ai plus du tout envie de m'infliger ce genre de choses. Donc okay. les trucs anxiophiles,
les films
trucs
dramatiques et tout, c'est pas ta cam.
Si j'avais envie d'être en thérapie, j'irais en thérapie, tu vois.
On en parlera dans un autre podcast peut-être un jour.
Et donc
t'as pas vu par exemple le dernier Scorsese de 3h30, Killers of the Flower Moon, sur une série de crimes affreux qui visent les populations natives américaines début du 20e. J'ai lu le livre, j'ai pas encore vu le film. Mais je compte le regarder. Mais bon, c'est, tu vois, je me lève pas le matin en me disant, j'ai trop hâte.
Ouais.
3h30 de ça. Parce que
donc
c'est
horrible. Je m'intéresse vraiment qu'au blockbuster débile.
Okay.
Genre, plus c'est débile.
Avatar 2.
Plus c'est con. Non, même pas. Genre, Avatar 2, c'est, j'aime. Alors, j'ai aussi des espèces de sales réflexes de, j'aime pas James Cameron, je sais pas pourquoi, tu vois, il m'énerve, il me fait penser à Luc Besson.
Ouais, alors bon, il a moins de casseroles aux fesses, je pense, que Luc Besson en termes de personne humaine.
Ouais.
Mais, oui, c'est gros.
Non, mais Avatar, c'est une esthétique.
Ça se prend au sérieux.
Quand l'esthétique me va pas, ça me va pas, tu vois. Donc
ouais,
ça,
mais Titanic, frère.
Ça fait le tri. Moi, Titanic, je sais pas, ça me...
Ok.
Bref.
Donc,
et donc,
pas
donc,
le plus cinéphile, mais je suis un peu dans le même état, je pense. J'ai un peu du mal avec les films.
Donc, prenez mon avis.
Et aller au cinéma.
Donc,
aussi.
Ne vous soyez pas offensés par mon avis. Genre, je suis clairement un peu un blaireau, en fait. Et donc,
c'est comme quand moi je vais vous parler de musique, genre, rappelez-vous
donc,
de où on part.
Donc, prenez juste mon avis pour la valeur comique.
C'est du stand-up,
ça peut
en
avoir,
fait.
En fait.
C'est un back-to-back de stand-up.
Ouais,
sur
pas
Twitch.
Du tout pour la valeur. Si... Bah, tu vois.
Non, mais oui, on n'est pas à le masquer la plume, moi. On va pas vous dire, ah oui,
Christopher Nolan me gave.
Bon, ça, c'est un peu.
Tu vois, les gens me. Tout me gave.
Qu'est-ce
en fait.
Est-ce que t'as comme ça un ou deux films récents que t'as bien aimé? Même si c'est des blockbusters débiles, tu vois. Moi, j'adore Fatal de Michael Youn, je l'ai vraiment vu 17 fois. Donc, il n'y a pas de
J'ai bien aimé. Le film avec Ryan Reynolds là dans le jeu vidéo là.
Ah ouais,
Free Guy.
Oui.
Ouais, Free Guy.
J'allais dire Mister Guy, OK.
J'ai bien aimé Free Guy.
OK, je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir.
J'ai bien aimé le
une forme de McDo, tu sais.
J'ai bien aimé le deuxième Suicide Squad.
OK.
Non mais ça on parle déjà de films de 2021,
okay.
Tu vois.
OK. Est-ce que t'es chaud pour du coup genre Aquaman 2,
non,
les films DC nuls?
Non, les films DC nuls horribles.
Est-ce que t'as vu le dernier Zack Snyder sur Netflix? Rebel Moon.
Non, je ne me suis pas infligé ça.
Il paraît qu'il est vraiment pas bien, même pour du Zack Snyder, quoi.
Je déteste l'esthétique de Zack Snyder.
Ouais.
Qui est, pour moi, fait penser à une peinture murale, un sticker mural, en fait.
Ouais, en vinyle, là.
Ouais, tu vois, version cinéma.
Après, quand j'avais 16 ans, j'aimais bien Sucker Punch. Mais j'avais, non, je mens parce que je crois qu'il est sorti un peu trop tard. J'avais pas 16 ans, j'avais 18 ans. À 18 ans, Sucker Punch, j'étais là, ah, c'est un peu cool. Et après, et Watchmen aussi. Et après, j'ai grandi.
Ça me gave. Watchmen, ok. Mm.
Watchmen, c'est le seul Snyder où on peut dire, avec son tout premier qui était Dawn of the Dead, un remake de d'un des zombies de Romero, qui est vraiment pas mal du tout, okay, dans mon souvenir. Bon. Je l'ai pas revu depuis 20 ans, car je veux rester sur un bon souvenir.
Donc là,
donc
moi,
là
je
pour
un,
2024,
donc là, moi, je suis un gros beauf.
Non, mais on va être, c'est
je suis
les,
un gros beauf,
les
donc...
films à popcorn, c'est un genre qui existe. Hein.
Ouais.
Tu donc... vois, c'est comme les romans de gare ou les best-sellers de Mark Levy, c'est aussi des livres. Et puis donc... on va pas se mentir, c'est ces films-là qui font vivre le cinéma aussi, quoi. Ouais.
Donc j'attends mon petit Deadpool 3.
Allez, Deadpool 3.
Ouais, parce que j'aime bien.
Je l'ai
Ryan
pas
Reynolds.
Noté, mais je me suis dit il y avait moyen
c'est
que tu l'amènes.
C'est un gros crowd pleaser. Il va y avoir apparemment les rumeurs disent que ça va. Bon, même les Marvel. Tu vois, il y a quelques années, je t'aurais dit je regarde tous les Marvel et je suis content, tu vois.
Oui, bah, ben, j'ai
même
vu jusqu'à.
Maintenant, je suis saoulé par les Marvel, bien sûr.
Mais ils ont pas vraiment réussi à transitionner après Endgame.
Exactement.
Et à la limite, Spider-Man No Way Home, qui était
exactement
vraiment Endgame 2.
Exactement. Et donc, je suis un peu,
des
donc,
fois, là, je repense à The Eternals, et je rigole un peu. Parce que The Eternals, il y a vraiment des enjeux, mais genre, intergalactiques, interdimensionnels. Et il y a un truc hyper important qui se passe à la fin, genre, de l'équivalent du snap de Thanos. Ouais. Et après, dans tous les autres trucs Marvel, ils en reparlent plus jamais. Et je suis là, ah oui,
ouais, c'est vrai.
C'était bien quand les films avaient une cohérence vague.
Non, mais la continuation, c'était un truc important dans les Marvel qui était intéressant.
Un univers étendu.
Où justement, on commençait à traiter les films comme des séries. Et c'était, moi, je trouvais que c'était cool.
Voilà, là, ils n'ont pas encore réussi à refaire prendre la mayonnaise.
Il y a beaucoup de gens qui sont turn off par ce truc, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de devoir faire leur devoir avant de regarder un film Marvel. Je comprends tout à fait. Et maintenant, c'est tellement alambiqué qu'ils se sont poussés dans un coin, en fait.
Ouais, et ils sont coincés. Hein.
Mais bon, donc là, on est dans le multiverse. Donc en ce moment, tout est possible. Tout le... donc
et
on,
alors...
va, on va revisiter les films X-Men, en gros.
Oui, parce que c'est ça la différence, c'est que Deadpool fait pas partie du Marvel Cinematic Universe.
Bah là, il rentre dedans.
C'est pour ça qu'on le voit. Mais c'est les mêmes trucs que pourquoi il y a Spider-Man parfois et parfois non.
Ouais,
et il y a des
ouais
films Venom chez Sony qui sont pas dans le MCU du coup.
Ouais.
C'est des histoires de droits. En gros, Sony a certains droits de certains personnages Marvel, dont les X-Men et Deadpool. Mais quand Sony avait essayé de faire des films Deadpool, et souvenez-vous,
non,
cet
c'est
horrible
Sony,
film...
C'est
pas Sony ?
Non, c'est pas Sony.
Je crois que c'est Sony qui a X-Men et Spider-Man. En tout cas, c'est un studio qui n'est pas Marvel. Qui
Sony a
X-Men.
Spider-Man.
Ah, c'est peut-être la Fox.
X-Men, c'était la Fox. Et la Fox, maintenant, est rachetée par Disney. Donc
ouais,
maintenant, ils ont le droit de,
voilà,
de
mêler les deux. Et donc, on aura on aura Wolverine, joué par Hugh Jackman, dans ce Deadpool.
Ouais.
Mais pas le Wolverine que vous connaissez du film. Une version alternative de ce Wolverine-là, mais toujours joué par Hugh Jackman. Enfin, ça va, qui, Wolverine qui est, celui qui s'embrouille tout le temps avec Deadpool, ils sont vraiment
oui, dans les comics, c'est
quoi.
Très ouais, ils sont très liés.
Donc on attendait de pouvoir les voir vraiment interagir plus que ça.
Parce
quoi
que les combats n'ont pas de fin entre eux puisqu'ils ont tous les deux cette espèce de truc où ils peuvent pas
oui, ils se guérissent.
Ils se régénèrent. Mmh. Donc les combats finissent jamais.
Et parce que Deadpool est un chieur aussi.
Ouais.
Wolverine n'a pas toujours beaucoup de second degré.
Donc voilà, moi j'aime bien le ton un peu naze de Deadpool, un peu genre
Je brise le quatrième mur.
Ouais,
un peu méta.
Non, mais je suis conscient que c'est pas du grand cinéma. Hein. Mais bon,
c'est pas grave. Hein.
C'est un peu, voilà, c'est un petit. Allez, je suis curieux. Ça se trouve, ça va être un naufrage absolu. Hein. Je suis curieux de regarder quand même ce truc, bouffer du popcorn et de passer un bon 2 heures devant mon écran de ciné probablement parce que je suis allé au cinéma, j'imagine.
Ouais, tant qu'à le voir, autant y aller au cinéma, tu vois. C'est marrant, je pense que...
Le Covid plus... L'enchaînement Covid, punaise de lit, m'a un peu calmé avec le cinoche. Hein.
Je comprends, mais je me dis, quitte à aller voir quelques films au ciné
bien
en
sûr
2024, si t'aimes bien les blockbusters, je pense que Deadpool, les gens, ils seront contents, tu vois,
ouais,
ils vont se marrer. S'il y a des bonnes... Je pense que Deadpool, même aux 2/3 réussi, ça reste genre un moment ok. C'est
ouais, ça sera bien.
Comme Hippopotamus.
Ils peuvent pas le foirer, celui-là.
Ouais.
Je veux dire, Disney sont dans la merde, là. Ils ont fait 4-5 flops d'affilée.
Ouais.
Des trucs trop compliqués. Même le deuxième Thor, le troisième Thor, quatrième Thor. Avec, qui
oui
était fait par
Taika
Waititi. Voilà,
ouais,
la suite de Ragnarok. N'a pas eu,
ah, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il était vraiment raté, quoi.
Il est raté. Il est aussi raté que Ragnarok est bien, tu vois.
Oui, ce qui est
et donc donc là ils ont besoin d'un win en fait et je pense qu'ils mettent toutes leurs billes dans Deadpool et je pense que ça sera pas naze quoi.
Je suis d'accord. Je pense que ça sera pas naze. Je l'ai pas noté, mais je pense que ça sera un moment fun au cinéma. Après, mon problème, c'est que autant Deadpool 1, je m'en souviens bien, autant le 2, je sais que je l'ai vu et j'en ai aucun souvenir. Donc, j'ai un peu peur de, et ça me fait ça avec beaucoup de films de Ryan Reynolds. Ouais. Et j'ai un peu peur d'avoir saturé de Ryan Reynolds, ouais, qui joue quand même un peu tout le temps Ryan Reynolds. Ouais, mais, voilà. Peut-être que, aussi maintenant qu'on est un peu en disette de bons films de super-héros, ouais, type Marvel, bah, ouais, je serais contente d'aller voir Deadpool, de revoir Hugh Jackman et tout ça, et je serais là en mode, c'est le capitalisme phase finale, mais ça fait des films rigolos.
Ouais.
Moi, le premier film que j'ai noté, ça s'appelle Civil War, mais ça n'a rien à voir avec l'acte Marvel Civil War qui a déjà été adapté il n'y a pas si longtemps, avec le plus beau Captain America de toute la saga quand même, avec sa petite barbe. Civil War, c'est le nouveau film de Alex Garland.
Je
à qui
que
on
tu
doit...
détestais Marvel, en fait.
Ah non, non, j'ai vu tout le Marvel, okay, Cinematic Universe, moi. Okay. Sauf 2-3, vraiment, où je m'en fous, genre Thor 2, tu vois, je suis, ouais, là, non. Et le dernier Gardien de la Galaxie, enfin bon, j'ai un peu lâché après,
ah,
Spider-Man.
Il
paraît, ouais, mais, ouais, je suis là, j'en ai vraiment vu beaucoup.
Il c'est le meilleur des trois d'ailleurs.
Mais non, mais moi tu sais, j'ai besoin d'être dans la discussion, dans le discours, ouais, sur la pop, ouais, culture, donc je regarde les gros trucs.
D'accord.
Mais Marvel, j'ai bien aimé, tu vois, j'ai, ouais, vu Endgame, je crois que c'était avec Fabrice d'ailleurs, on l'a vu en Projo Press, donc le jour où il sortait, okay, mais le matin. Ouais. Et vraiment, bon, spoiler pour Endgame, mais ça fait un moment. Quand Captain America, il attrape le marteau, genre, on était vraiment en mode, ouais, les, ouais, gens, ils applaudissaient dans, ouais, la salle et tout.
C'est une expérience commune.
Moi, j'aime bien le spectacle.
Ah, c'est cool, ouais, ouais.
Et j'aime bien la culture mainstream, ouais, tu vois. Ouais. Je suis pas snob du cinéma. Là, c'est un peu moins mainstream, mais quand même, le
donc,
mec.
Civil
est
War,
connu.
Excuse-moi. Hein,
ouais.
Je
donc, Civil War, c'est un film de Alex Garland, qui, est, je crois, une production Apple, et qui sort le 26 avril. Donc, il n'y a aucun film avant le 26 avril qui me tente très fort. C'est un peu dommage. Alex Garland, c'est le mec qui a fait Ex Machina et Annihilation. Il fait des films de SF assez ambitieux. Et là, il imagine, et c'est un peu ça qui m'intéresse. Alors, c'est un film avec au casting pas mal de gens connus, notamment Kirsten Dunst, la Mary Jane originelle des films Spider-Man avec Tobey Maguire, qu'on n'a pas vu depuis un moment, que j'aime beaucoup. Et ça imagine une guerre civile, une vraie guerre civile, dans les États-Unis actuels, où il y a littéralement des États qui font sécession et tout pour des raisons politiques. Donc, c'est de la SF, mais de la dystopie politique. Et j'avoue que je suis assez curieuse de. Donc, il me semble qu'en plus, Alex Garland, il est britannique. Donc, c'est un britannique qui pose son regard sur la politique américaine et qui imagine une sécession. Et du coup, on suit des personnages dans cette guerre civile qui essayent de s'enfuir et tout. Je suis curieuse de voir ce que ça va dire politiquement des États-Unis et comment ça va être reçu. C'est quoi ?
C'est Trump, quoi.
Bah, en tout cas, c'est un film post-Trump, clairement. Ouais. Je pense pas qu'il y a directement Trump dedans, mais voilà, à quel point ça va être subtil ou pas ? Et à quel point ça va être considéré comme un discours intéressant sur l'état des États-Unis ou sur comme un truc hyper cliché qui correspond pas à la réalité. Je suis autant curieuse du film parce que en vrai, il fait toujours des propositions quand même assez intéressantes que du discours autour du film. Des bonnes hot takes et des bonnes discussions qu'il y aura autour. Donc voilà. Et puis je pense qu'en termes de spectacle, ça va être pas mal, quoi. Est-ce que t'as un autre film?
Annihilation m'avait un peu gavé.
Il m'avait un poilito brouté aussi, mais voilà, il propose, tu vois. Même Ex Machina, ouais, qui est très bien, c'est un film sur l'intelligence artificielle et la robotique, avec Oscar Isaac qui crée un robot, il y a un gars, tu sais, qui vit chez lui, et qui... Toute une histoire aussi de l'homme devient fou et tout, par rapport à la machine.
Okay,
c'était pas parfait, mais c'est intéressant, et bon, voilà, pour changer, j'ai aussi des blockbusters, hein, j'ai beaucoup de suites, et du coup, j'ai fait l'effort après de noter des films qui sont pas des suites ou qui font pas partie d'une franchise. Civil War, c'est une œuvre originale. Déjà, on est content.
J'ai noté Dune 2.
Ok, et eh ben je parle de Dune 2 parce que
parlé,
c'est le film le plus plébiscité sur Instagram. Parmi les gens qui ont répondu, le film que vous attendez le plus cette année, c'est Dune 2. D'assez loin.
Bah écoute, il y en a pas des masses, hein, des films que j'attends cette année, donc je me contenterai d'un bon Dune 2, quoi. J'aimerais qu'il le réussisse, j'aimerais que ce soit bien foutu, j'aimerais que ce soit, voilà, ma petite dose de Florence Pugh, okay, ma petite dose.
Sais, j'avais oublié qu'il y avait Florence Pugh.
Ouais, il y a Florence Pugh dedans, il y a tout le monde dedans.
Toute la jeune génération.
Avec un casting comme ça, ça peut être de la merde. C'est... Le premier, ça me faisait trop. Le premier, j'ai trouvé un poil chiant, mais quand même bien, tu vois.
Il y avait un peu un côté, c'est trop une intro. Genre, c'est trop le contemplatif.
Ça se touche un peu la nouille.
Ah bah, Denis Villeneuve,
ouais,
le réalisateur. Je l'aime beaucoup, mais il se prend au sérieux, hein, et il se prend pas pour de la merde, hein.
C'est vraiment genre les, et puis surtout, genre, il y a pas trop de vie, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment,
oui.
C'est toujours,
C'est pas des humains très humains, quoi.
C'est un film avec des univers qui sont pas habités en fait. Un petit peu comme Blade Runner, ça me donnait ce truc des grandes étendues, mais il y a t'as l'impression de regarder un lieu vide. En fait, il y a pas beaucoup d'humanité en fait dans le truc. Et contrairement et je veux dire, j'en m'en bats les couilles. En vrai, je m'en fous un peu du Star Wars version 2020, année 2020, tu vois.
Ok.
Mais au moins dans les Star Wars, dans les films de science-fiction qui se prennent un peu moins au sérieux, il y a plus de vie, ça grouille un peu plus, il y a plus des aliens avec des têtes cheloues, machin, des fois c'est un peu mal fait, c'est des masques et tout.
Oui, même, on parlait tout à l'heure de Luc Besson. Ouais. Valérian de Luc Besson, j'ai trouvé que c'était une purge parce que le duo de têtes marche pas du tout. Mais en termes d'univers créé, t'as tout un marché dans le désert avec plein de races aliens qui se croisent, des véhicules qui n'existent pas, de l'architecture marrante et tout. Oui. Et j'étais là, ok, c'est un peu fun, quoi. C'est un peu pulp.
J'ai du mal à dans ma tête justifier une œuvre de Luc Besson, mais
c'est compliqué. Besson à plein de niveaux. Après, mon film préféré, tu sais que ça reste Le Cinquième Élément.
Ah ouais, ah waouh.
Je le dis moi en public depuis quelques années, mais c'est quand même réel. Hein. On ne se refait pas, voilà. J'étais petite.
Mais bon, ouais, voilà. Donc j'ai trouvé que Mais donc Dune, j'ai trouvé que c'était très contemplatif pour des fois.
Oui, il y a des gens dans le chat qui disent que c'est assez froid. Par rapport au livre de Frank Herbert ou à la version de Jodorowsky, qui est pour le coup un réalisateur très très chez pair, ça manque de vie, ça manque de crasse, ça manque de réalité peut-être.
J'aime pas trop l'esthétique Moebius, donc le Jodorowsky qui n'a pas eu lieu. Je sais pas si j'aurais été fan de l'esthétique. Et en fait, la version de Villeneuve, l'esthétique est irréprochable, mais presque genre « be careful what you wish for », fais attention à ce que tu souhaites.
Tout à fait, car ça pourrait t'arriver.
J'ai l'impression que c'est presque trop clinique.
Ouais.
Mais bon, je l'ai quand même bouffé, tu vois. Et au milieu de ce film méga, qui se prend méga au sérieux, quand il fait la voix...
On va en parler, mais j'ai pas vu.
Il y a des moments où il fait la voix, où il fait une voix, en fait. Et c'est une espèce de voix magique.
Ok.
Qui fait que tu peux pas lui dire non, il est comme.
Ah,
comme,
c'est un pouvoir, quoi.
Ouais, c'est un pouvoir. Tu peux pas refuser, t'es obligé de le faire, tu vois.
Ouais.
Et c'est un espèce de truc. Et quand il fait cette voix, c'est vraiment genre, passe-moi le sel. Et c'est vraiment genre, wow, ça défonce, c'est trop drôle. Il y a un effet sonore déconneur, tu vois. Je sais pas, ça me fait trop marrer. Et donc,
ok, ça t'a sorti un peu justement du sérieux, tout là.
Il y a deux, trois moments où ils le font. Et déjà, je trouve ce pouvoir fascinant. Le pouvoir de, tu dis un truc et la personne peut pas ne pas le faire.
Oui, comme dans Jessica Jones.
Comme dans
le
Jessica
méchant.
Jones. Il était cool. Ce méchant.
David Tennant.
Ce méchant terrifiant que j'adore, tu vois. Mm.
Et ou dans Gen V, là, le préquel de The Boys, il y a une meuf qui a
exactement.
Ça aussi. Et ça pose des vrais soucis, parce que à un moment, quand elle sait pas qu'elle peut faire ça, elle dit à son petit frère, barre-toi, je veux plus te voir, reviens jamais. Et guess what, il le fait.
Ouais.
Oh
ouais,
non!
Ouais, ouais. Et donc, tu vois un petit peu spoiler de Gen V, là.
Un petit peu, peut-être. Désolé.
En tout cas, c'est parce que c'est toi qui d'habitude.
Non, mais c'est vrai, mais tu sais, on change. C'est la trentaine, on oublie, on fait des lives, on a fait une pause dans les lives, désolé.
Ok, bon. En tout cas, je trouve ce pouvoir fascinant, donc si dans le 2 il fait la voix là, c'est bon.
C'est quoi les enjeux? Alors, donc moi d'une, j'ai essayé les bouquins, je suis vraiment pas rentrée dedans, je pense que c'est pas mon type de SF. Et le film est sur ma to watch. Au début j'étais là, je vais aller le voir au ciné, grand spectacle, Villeneuve et tout. Après j'étais là, ça a l'air un peu chiant. Et en fait, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, j'ai pas d'affect. Je m'en fous. J'ai un peu raté cette nouvelle génération.
Ah, wow.
J'ai pas vu leur, tu vois, Florence Pugh, j'ai pas vu ses gros films. Zendaya, je l'ai vu dans les Marvel, je pense pas que c'est ses meilleurs. Euphoria, je m'en fous. Timothée Chalamet, si je l'ai vu dans Interstellar, mais où Miskin, il joue le fils dont tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, j'ai pas vu ses gros rôles. Et du coup, j'ai pas cet affect-là de, ah, trop cool, Florence Pugh, dans le désert. Et j'ai pas l'affect pour l'univers Dune. Donc, à part Villeneuve, voilà, y a rien qui me tient. Et comme ça a l'air de se prendre au sérieux de fou, j'étais un peu en mode, tu vois, j'ai un peu l'impression de faire... Ah, mais du coup, House of the Dragon, tu vois, il y a un côté quand même, je sais pas, il y a des batailles de dragons et Matt Smith qui...
Mais il y a des batailles aussi dans Dune, c'est cool.
Ok.
Franchement, je pense que t'aimerais.
Écoute, je le regarderai peut-être à temps pour le 2 qui sort, je sais pas quand, je l'ai pas noté. Dites-moi le chat.
Josh Brolin, il y a Jason Momoa. Non, c'est pas mal.
Ah, Jason Momoa, il a pas la carrière post Game of Thrones, qui fait le plus rêver.
Non, mais il est cool.
Est-ce que c'est genre après le 2, c'est fini?
Ah, je sais pas.
OK.
En fait, il y a potentiel pour en faire plein, je crois qu'il y a l'univers étendu et assez large.
Je crois qu'il y a 3 d'une les livres et là c'est le premier livre peut-être qu'ils ont fait en 2 ou je sais plus. Ouais, je sais pas s'ils collent vraiment de fou à la chronologie du livre, mais du coup, est-ce que il y aura plus d'action dans le 2? Est-ce que le 1 il pose des trucs et le 2 c'est genre le Seigneur des Anneaux 2 quoi. Oui. On y va. OK. Ouais. Bah peut-être je regarderai d'une 1 à temps pour d'une 2 et peut-être
moi je vais me le refaire.
Vous êtes chaud? Eh ben on parlera de
si tu veux on se le refait à la maison.
Ah mais grave. Tu vois, je fais à manger, je te fais une petite tourte de ton world de ton il y a évidemment Tequila Tex possède le bouquin de cuisine de Westeros et puis on regarde d'une 1.
Ouais.
Mais dans le chat c'est partagé entre les gens qui ont beaucoup aimé, quelqu'un qui disait Dune a réussi, Timothée Chalamet a réussi là où j'ai échoué puisque j'essayais de faire lire Dune à mes ados depuis une éternité, ils s'en foutaient et maintenant ils aiment bien le film. Mais il y a quand même aussi des gens qui regrettent tout à la froideur de l'univers et de, d'autant plus paradoxal qu'on parle quand même d'un monde désertique avec globalement de l'épice et des arabes, quoi. Donc je suis là. Timothée Chalamet, bon.
Ouais.
D'accord. Peut-être que ça manque un peu de savior, Prince du désert.
Il y a un problème de White Savior Syndrome de ouf dans Dune. Ah, c'est sûr.
Après, on peut dire, dans le livre, c'était ça, mais bon, peut-être on peut moderniser les choses, quoi.
Ouais, mais en même temps, je pense que plus tard, sans spoiler, mais je pense que plus tard dans la narration,
il y aura de la diversité.
Il est pas si savior que ça, le White Savior.
Ah oui, ok.
C'est un peu colonialisme
finalement.
Ouais,
quoi.
Ouais, en fait.
Dans le livre, ça parle de djihad, nous dit Birdseye. Dans les films, ils n'ont pas osé. Oui, le mot est un petit peu connoté.
Ouais.
Ok, et bah Dune 2, donc le film qui vous hype le plus, et le deuxième film qui hype Tequila Tex, un peu plus sérieux que Deadpool 3.
J'ai pas mis d'ordre. Il n'y a pas d'ordre de hype.
Oui, non, c'est juste les noms, les titres qui sont venus.
Qui m'est venu à l'esprit, quoi.
Alright. Merci beaucoup, Alexis, pour le sub, et merci à la personne anonyme qui a offert un mois de sub à Fabrice Florent. Merci beaucoup. Fabrice, tu n'étais pas abonné, dis donc. C'est pas grave, je t'aime quand même. Écoute, pour repasser à plutôt un blockbuster fun, je pense, il y a un film qui s'appelle The Fall Guy, qui sort le 3 mai. Alors, sachant que
Gosling
et Ryan Gosling. Ouais. Qu'on adore, le chouchou de 2023 et de 2024. Emily Blunt, qui perso, je suis un peu hermétique à sa carrière actuelle, mais je sais qu'elle est très appréciée.
Oh, elle est cool.
C'est notamment la meuf du film Quiet Place et Quiet Place 2. Et c'est la rouquine du Diable s'habille en Prada. Moi, je l'aime beaucoup dans des rôles comiques, mais dans ses rôles sérieux, j'avoue que j'adhère pas trop. Mais justement, là, je pense que ça va être plutôt drôle parce que c'est le réal de John Wick qui fait un film qui s'appelle donc The Fall Guy, qui se passe dans les années 80, où Ryan Gosling joue un cascadeur qui est aussi chasseur de primes, si j'ai bien compris. Et ça va être, je pense, assez fun. C'est une rom-com, oui.
Ouais.
Et je pense que, du coup, il va y avoir de la bonne action, forcément, parce que c'est le réel de John Wick. Et qu'on devrait bien rigoler parce que c'est Ryan Gosling. J'espère un peu qu'Emily Blunt va faire de la bagarre parce que il y avait quand même pas beaucoup de meufs qui font de la bagarre dans les John Wick. Ça manquait
Emily
un peu.
Emily Blunt, elle est dans le film avec Tom Cruise qui est bien là.
Oui, Edge of Tomorrow.
Exactement.
Tout à fait. Et là, elle était cool.
Elle était cool.
Mais ça là, se prenait pas trop au sérieux.
Tape.
Oui, c'est vrai que là, elle faisait bien la bagarre. Du coup, voilà, ça, c'est début mai. Je pense que ça va être fun. Et il est assez attendu aux US, en tout cas. Donc, il y a moyen qu'il ait un beau succès.
Ouais, je pense.
Est-ce que t'as un troisième film?
Ouais, j'en ai plein. Hein.
On enchaîne, on avance.
Ouais, on avance.
On regarde les bandes annonces quand on décide qu'il faut.
Bah, Ghostbusters, Frozen Empire, ça vous branche ou pas?
T'as que les trucs que j'ai pas notés, t'as que les sagas dont je m'en bats la race, vraiment.
Ghostbusters, c'est gaulerie.
Who you gonna call?
Ouais, Ghostbusters quand même. Moi, j'ai vraiment...
J'ai jamais vu Ghostbusters.
C'est un film important de mon enfance, tu vois.
Je comprends. Genre, je pense que je l'ai pas vu gamine, du coup, j'ai raté la hype, tu vois. Mais
genre,
du coup.
Mater Ghostbusters à l'UGC Convention, puis manger un Burger King dans l'un des premiers Burger King de France, voilà.
Ça, c'est l'adolescence à Paris.
Mais pas adolescence, petite enfance.
L'enfance à Paris.
Ça, c'est vraiment les années 80, tu vois.
Alright.
En achetant un petit Transformers sur le en rentrant à la maison, tu vois, ou des cartes Panini, tu vois,
chez le
marchand de journaux,
avec
vois.
Tout le monde qui clope des qui fume des gains à l'intérieur là.
Un petit pain au chocolat, un petit bah ça c'est vraiment ça c'est mon
ça c'est ma France.
Ça c'est ça, voilà.
Ça c'est tes petites
moi,
lunettes roses à toi.
J'ai vraiment Ghostbusters, j'ai vraiment kiffé. Quand j'étais petit, c'était vraiment parce qu'il y avait quand même Bill Murray qui était quand même un peu genre je suis trop bien pour ce film, tu vois, et qu'il y avait quand même un petit côté genre un film de SF fait par SNL, tu vois.
OK.
Et en même temps, qui se fout pas de la gueule de la SF, tu vois, qui est
oui, qui assume cool, que quoi. C'est du fantastique, il y a des fantômes.
Et puis on avait tous envie d'avoir une espèce d'aspirateur sur les dos.
Ça
on
oui,
avait tous
ça
envie.
Oui.
Tu vois, bon.
Et on doit à Ghostbusters Luigi's Mansion, qui est une très bonne série de jeux vidéo où on joue Luigi de Mario qui aspire des fantômes avec son aspirateur. Ouais. Ça, c'est super.
C'est cool.
Ghostbusters, j'ai moins d'affect, mais du coup, c'est la suite du Ghostbusters de tard l'époque.
Ouais, ça suit la continuité du Ghostbusters de l'époque.
Mêmes acteurs et tout?
Il y a des acteurs en commun et il y a Paul Rudd.
Bah, Paul Rudd qui ne vieillit jamais en plus.
Et il y a Paul Rudd qui n'était pas dans les premiers. Hein,
d'accord.
Qui était trop jeune, débarqué là sur le dernier. Le dernier, c'était vraiment la foire aux Easter eggs et c'était vraiment du fanservice 100%.
Parce qu'attends, il y a eu combien de Ghostbusters? Si on ne parle pas du remake féminin là qu'il y a eu.
Alors, il y a eu les deux. Il y en a eu deux au début.
Ok.
Je dis pas de bêtises.
Je crois que oui. Hein. Non, je crois que tu as raison.
Il y en a eu deux au début. Ensuite, il y a eu le féminin qui était une autre continuité.
Ouais.
Et ensuite, il y a eu celui récemment avec Paul Rudd là.
Ok.
Qui était, allez, pas trop mal fait pour un truc de fan service.
Ok.
Fait par le fils du gars qui a fait l'original.
Donc potentiellement qui a du respect pour.
Voilà, qui a grandi sur le tournage. Tu vois.
Yes.
Et honnêtement, ça va. Et honnêtement, je pense que c'était la foire aux Easter eggs. Et j'espère que, justement, parce que le premier de la nouvelle génération était foire aux Easter eggs, ils vont pouvoir. Il y a un autre méchant qui n'a rien à voir dans le deuxième.
Ok.
Et on est un petit peu moins dans la nostalgie dans le deuxième. J'espère dans le prochain quoi.
Peut-être du coup que ça sera cool pour les gens pour moi qui ont peut-être pas cet affect avec le premier.
Exactement.
Et je pense. Alors Isaline dans le chat nous dit qu'il y a un des acteurs de Stranger Things dedans. Donc il y a peut-être aussi cette volonté de raccrocher la plus jeune génération qui a peut-être pas grandi avec Ghostbusters.
Exactement.
Et en vrai,
Stranger Things est très inspiré par Ghostbusters.
Oui, bah ouais ça fait partie des refs
de l'époque, tu vois.
Et en vrai, on n'a pas beaucoup de comédies semi-horrifiques mais familiales, tu vois, de comédies surnaturelles. On en a beaucoup en animation, genre Hôtel Transylvanie, Moi moche et méchant et tout. Moi, je suis pour, si ça marche bien.
Ah ouais.
Je suis contente, tu vois.
Mais c'est un bon burger, quoi, ce film.
Bah oui, et je me dis, tu vois, j'ai un neveu, là, qui a bientôt 5 ans. Bah, peut-être dans 3-4 ans, je peux lui montrer Ghostbusters, on rigole, quoi, c'est cool.
Il y a quelques jours, j'ai...
C'est chouette de rigoler avec les fantômes.
Ouais. Il y a quelques jours, j'ai joué pour l'anniversaire d'un pote qui est un mordu de SF 80s.
Ok.
Et donc j'ai joué que des soundtracks de.
Ah non mais laisse tomber tous les bandeurs de cadra là, il devait être en mode. Ouais. Oh my god.
Et bien sûr j'ai joué.
J'adore Labyrinthe.
J'ai joué Ray Parker Jr. Des Ghostbusters. Mm-hmm. Le Who You Gonna Call?
Ghostbusters. Mais moi je la connaissais là, ça va.
Franchement c'est une tuerie ce morceau. Enfin,
c'est un banger.
Nostalgie mise à part, c'est une bombe. Morceau. C'est génialement fait, quoi.
Et si on peut faire confiance à quelqu'un pour passer des morceaux de films ou de séries dans des sets et faire danser la foule, c'est quand même Tequila Tex. L'homme qui passe des génériques HBO en plein set, sans même finalement les remixer, t'es juste en mode. White Lotus, Succession, boulot est bien fait, on kiffe, c'est cool, on est ensemble. Coucou Crush Tats qui vous partage une micro-reco puisque sur mes conseils, il l'a dit dans le chat, il vient de finir la mini-série We Own This City qui date d'il y a quelques années. Donc on n'en va pas en parler beaucoup mais je vous la glisse, elle est très très bien. C'est une mini-série par l'équipe de The Wire sur une équipe de flics ripoux qui a vraiment existé.
Ah, je me rappelle de ça.
Et c'est avec John Bernthal.
Ah oui.
Notre mari daddy à tous. Donc, ravi. Ouais, John Bernthal, je le laisse me faire du sale.
Ah ouais.
Et il a ce côté genre, j'ai un peu peur de lui, tu vois. Il a vraiment l'air d'un mec qui peut te péta et je suis là... Là, I can fix him, tu vois.
Ah ouais,
il peut.
Bon, allez.
Relation toxique avec Jean de Bernthal. Ok.
Tu sais quoi, dans la foulée, je veux juste dire qu'il y a normalement, on parlait d'Emily Blunt, il y a normalement A Quiet Place,
le préquel, The Early Days,
Day One, avec une toute autre point de vue dans une toute autre ville.
Yes.
Le jour où les aliens arrivent, bon, ça peut être gaulerie, quoi. Why not, voilà.
Ouais, A Quiet Place, donc c'est ces films par John Krasinski, alias
c'est
Jim,
pas lui qui fait le
de
troisième.
The Office. Oui, pardon, c'est lui qui avait créé le premier et le deuxième, c'est lui à la réal.
Et là, il lâche le truc à d'autres gens.
C'est peut-être pas mal, parce que moi, j'avoue, j'ai pas trop aimé. Mais donc, c'est j'ai trouvé ça... En fait, donc, le pitch, c'est post-apocalyptique, et on suit une famille qui survit vraiment en autarcie dans son coin, qui est menée par John Krasinski, qui est donc Jim de The Office, qui maintenant est extrêmement stock. La mère de famille est jouée par Emily Blunt, qui est sa vraie meuf dans la vraie vie. Ils ont deux enfants, et elle est enceinte. Et en fait, c'est post-apo, parce qu'il y a des aliens qui sont là, et c'est des aliens hyper sensibles au son. Donc dès que tu fais un bruit, ils arrivent, ils te bouffent. Et en fait, les persos, ils sont cons, je suis désolée. Ouais. Parce que le plot du 1, c'est qu'ils sont là, oh non, qu'est-ce que ça pourrait être, leur faiblesse et tout. Et à un moment, et le père, parce que c'est vraiment le père de famille, il réfléchit fort, et il a un tableau où il a écrit genre, alien, et il a entouré alien. Après, il a écrit, signe distinctif, entend très bien, il a entouré, et il a écrit faiblesse, point d'interrogation, et il a entouré plein de fois en mode, qu'est-ce que ça pourrait être, leur faiblesse? Je suis là, on est quand même censé être plusieurs années. Après l'invasion de ces bestioles, on n'est pas à jour 3, donc je suis là. Du coup, ça m'avait pas donné envie de voir le 2, à part qu'il y avait Cillian Murphy, donc j'ai pas vu le 2. Et là, c'est le préquel.
Le 2, je m'en rappelle plus.
Qui reboot, mais le 2, il a pris le Covid en pleine gueule, en plus, je crois, qu'il est sorti vraiment quand on pouvait pas trop aller au ciné. Et donc là, c'est le préquel de l'invasion de ces créatures, je dis aliens, parce que je crois qu'ils disent dans le film qu'ils sont venus de l'espace, mais en tout cas, de ces créatures. Et de qu'est-ce qui s'est passé. Donc bon. Peut-être ça va être bien, en tout cas ça va être un film grand spectacle suspense, mené par Emily Blunt. C'est toujours bien d'avoir une meuf en premier rôle dans ces films-là.
Je suis pas sûr qu'elle soit là dans le...
Non ?
Je suis même pas sûr.
Ah bon ? Ah, j'ai cru, parce que t'as dit en parlant d'Emily Blunt. Ah
parce
bah je suis pas sûr.
Parce qu'elle est dans la saga, quoi.
Voilà, mais comme moi j'aime pas trop la saga...
Je me pose la question là, parce que j'ai l'impression que c'est un tout autre cast.
Maybe. Bah du coup ça se tient, parce que c'est le préquel. Ok, voilà, si vous avez aimé l'univers A Quiet Place... Peut-être que vous serez content et contente de le retrouver dans le préquel.
Je voulais en parler juste deux secondes, mais c'est vrai qu'on...
Mais c'est bien, c'est bien. Mais tu me connais, moi je suis toujours obligé de donner tout le contexte aucune raison.
Oui, c'est vrai. Bon, vas-y, je t'ai doublé, du coup.
Aucun problème. En parlant de film d'action mené par une meuf, le film que j'attends le plus cette année, c'est Furiosa. A Mad Max Saga, le préquel de Furiosa... La meuf la plus cool de Mad Max Fury Road, le film le plus cool de l'année où il est sorti, qui devait être 2016 ou 2017. Et ça sort cette année, c'est sur le 24 mai. Et je me suis dit, celui-là, peut-être on peut regarder la bande-annonce, parce que Mad Max,
vas-y,
c'est quand même pas mal.
Vas-y, on peut regarder. Il y a quoi ? Il y a Chris Hemsworth dedans,
non ? Il y a Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy, qui joue le rôle du coup de Furiosa, incarné par Charlize Theron, dans la version Mad Max Fury Road, avec Tom Hardy. Hop, tiens, je te donne un écouteur. Allez. J'en prends un, on va faire ça à l'ancienne. Je vais aller tapoter la bande-annonce et normalement, ça va marcher comme sur des roulettes grâce à la technologie.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quel baigneur! Eh bien, ma foi, on est ravis déjà parce que ça a à peu près marché, même si vous m'avez dit sur le chat que les FPS, c'était pas ça et que apparemment j'ai un écouteur qui marche pas. Est-ce que t'es kinké par Furiosa Mad Max Saga ? C'est quoi ton rapport à l'univers Mad Max ?
C'est pas mon truc
On a vraiment zéro film en commun.
Du tout.
T'avais vu Fury Road comment ?
Ouais, j'ai vu Fury Road. J'ai vu Fury Road avec mon ex et on s'est regardé genre qu'est-ce qu'on fout là ?
Sérieux ?
Ouais, franchement, moi j'ai l'impression c'est l'esthétique qui me pose un gros problème.
Je comprends.
Fait. C'est l'esthétique
trop... Pour le coup,
trop...
c'est très 80s. Le guitariste qui faisait des flemmes là, t'as pas kiffé ?
Ouais, ça m'a saoulé, putain.
Ok, c'est trop Kiss, Rammstein pour
c'est
toi.
C'est trop, même pas, c'est trop Burning Man pour moi.
Ok. C'est même les vieux Burning un peu plus 80s avec Mel Gibson, c'était pas ton...
Ça n'a jamais été c'était mon truc parce qu'il y avait trop de bagnoles dans les vieux.
C'est vrai.
Et c'était trop genre, je m'en bats les couilles de ces bagnoles, tu vois. Genre, enfin non, mais c'est même pas une question de mascu, mais c'était vraiment genre un truc de ça me paraissait trop australien, trop quepon, trop ouais, trop c'est trop ouais, que on est sale, on ouais. est tout sale, regardez.
Je pense que quepon
est...
c'est un bon mot.
C'est trop quepon, moi j'aime pas, c'est trop c'est presque steampunk.
Ouais,
une sorte de version.
C'est du post-apo des années 80 ouais. où il y a une obsession pour le pétrole, les ouais, armes, le capitalisme, enfin
pétrole punk quoi.
Il y a ouais, il y a pas de réalisme parce que le pétrole et les balles seraient pas genre la priorité si on était dans cet état-là du monde et tout.
C'est vraiment...
Et c'est absurde quoi, c'est du grand spectacle, je suis d'accord avec
toi. C'est
là
la caméra, je peux regarder la oui. caméra dans les yeux et dire c'est beaucoup trop australien pour moi.
Alors, quepon, ça veut dire punk en verlan. Et ouais. c'est un mot de verlan qui s'utilise plus trop. Donc, c'est ouais. pour ça que quepon, ça va bien ouais. avec Mad Max, parce que c'est un peu passé. Moi, écoute, je m'en fous des vieux Mad Max. Vraiment, Mel Gibson, les années 80, pareil, c'était pas ma passion. Ni les bagnoles, ni les trucs de mascu, ni le post-apo à ce moment-là. Par contre, Fury Road, alors... À la base, moi, j'y vais parce que je suis in love avec Tom Hardy et parce que c'est un film qui a l'air quand même très attendu. Et je me prends une baffe. Genre, vraiment, déjà, j'ai été le voir. C'est le seul film que j'ai été voir quand j'avais la cheville dans le plâtre. Et c'était déjà toute une aventure pour y aller. Merci à ma copine Soraya qui m'a emmenée en voiture et tout. Et j'ai quand même pas regretté, même si c'était très compliqué parce que j'étais en mode « Waouh, je suis tellement heureuse d'avoir vu ce film au cinéma. Je m'en suis pris plein la gueule. » Et en fait, j'aime bien le fait qu'en fait... Autant je peux râler sur A Quiet Place, c'est pas réaliste parce que les persos ils sont un peu bêtes, mais parce ouais. que A Quiet Place il fait semblant d'être réaliste.
Oui,
Mad
d'accord.
Max il fait pas semblant, donc
ouais, okay.
ça n'a pas de sens, mais je suis là,
ouais,
ok,
ouais.
c'est n'importe quoi, ouais, il crame, tu vois, ouais, genre, ouais. on a plus de pétrole et plus d'eau, mais on a un gars qui fait des flammes avec sa guitare, bah ouais, peut-être ouais. économiser l'essence du coup, mais c'est, je m'en fous, je suis là, ok, c'est tout le monde est fou en fait, c'est ça, c'est ouais. une post-apo, je trouve qu'il y a un côté un peu Stephen King le fléau, qui est aussi du post-apo des années 80, un peu pulp, un peu kitsch de l'époque, et je pense que du coup ça me parle pas mal, en tout cas cette vision-là de Fury Road, et j'avais beaucoup aimé, en fait j'aime bien toutes les petites notes de world building où il t'en ouais. dit pas plus, notamment dans Fury Road, il y a un moment où il passe devant un marais où les habitants ils vivent sur des genres d'immenses échasses et ils marchent un peu à quatre pattes, enfin du coup à quatre pattes mais sur des immenses échasses, et tu les vois juste, c'est un plan, tu les vois au loin, et t'es là, j'ai envie de savoir c'est quoi leur bail.
C'est vraiment Burning Man.
Oui, mais Burning Man, sauf que c'est genre des vraies civilisations. Donc je suis là, c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Et donc dans Fury Road, on avait Furiosa qui cherche l'endroit verdoyant dont elle pense venir et avoir été arrachée, d'un tout un groupe féminin et tout, ce qui est aussi intéressant par rapport à Mad Max, qui est quand même un délire de couilles à la base. Et j'aime bien Anya Taylor-Joy, j'aime bien Chris Hemsworth.
Moi aussi, je l'aime bien.
Je crois qu'il y a Nicolas Hoult qui est de retour, qui jouait ouais. déjà dans Fury Road, le petit jeune là qui est en mode « Witness me !» Et genre, je pense que je vais en prendre... Enfin, la go, elle est en moto, elle roule sous un 18 tonnes, elle tire dedans, elle a une main bionique, elle fait un doigt à Chris Hemsworth qui coule dans une avalanche de balles. Je suis là, ouais, ouais, allons-y. Et après, j'ai envie de boire un Jager, tu vois, ou un ouais. truc pas bon et trop fort d'américain.
Du coup, je capte pourquoi tu kiffes Sucker Punch.
Pour le mauvais goût, en fait. Ouais. C'est peut-être juste j'aime le mauvais goût et l'action...
Moi, j'aime pas cette ouais. esthétique-là, c'est trop... Je sais pas. C'est
mais en vrai, je comprends pas trop pourquoi ça marche sur moi, parce que d'habitude, je suis pas du tout cliente, tu vois, genre.
Les trucs un peu rouillés, les
Burning
trucs un
Man,
peu.
Je suis
le
pas
métal Elfest. Rouillé, là, ça me
ouais,
serait.
J'aime pas la moto, j'aime le steampunk de loin, tu vois, enfin. C'est, moi, j'aime bien la fantasy, les citrouilles à la base, mais, j'avoue, Mad Max, ça marche sur moi, et Furiosa, du coup, le 24 mai. Je suis très chaude, et je pense que comme c'est le deuxième film que vous attendiez le plus et qui va être pas mal vu, peut-être que j'en ferai un live avec quelqu'un qui kiffe. Mad Max, du coup, pas qui la texte.
Est-ce que t'as
mais
vu
y a
le...
moyen qu'on débriefe.
Est-ce que t'as vu le clip où quelqu'un a pris une intelligence artificielle pour reprendre la voix de Caris et chanter « J'habite une maison citrouille » avec la voix de Caris? Bon, tu regarderas. Bon, ça, ça,
mettez le lien dans le chat si vous l'avez. Et si vous êtes sage, peut-être on regardera ça pour clôturer le live. Hein. Mais je me dis, si on se lance là-dedans, on n'a pas fini.
J'ai mis Spider-Verse 3 parce que vraiment, j'adore les deux premiers.
Oui. Vraiment. Alors, il a pas de date de sortie précise, mais on est bien parti pour 2024,
après,
a priori.
Après, il y a eu les grèves et tout, hein.
Oui. À voir.
On est bien parti.
2024 ou début 2025. Et a priori, ça va clore la saga, enfin, la trilogie, en tout cas. Spider-Verse en animation, là, les super films qui sont meilleurs que tout ce que Marvel a pu faire en cinéma en prise de vue réelle de
c'est
sa carrière.
Faux, c'est pas faux.
Et ça va être cool. Je pense que il y a peu de gens qui doutent. Tu vois, le premier était bien.
Ouais,
le deuxième
était
bien.
Le deuxième était vraiment pas mal du tout, voire très bien.
Le troisième devrait être à minima bien.
Et puis ça, le deuxième finit sur un cliffhanger.
Oui.
Qui vraiment est cool, tu vois.
Oui.
Et on va pas spoiler, mais c'est vraiment genre ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer.
Mais déjà ça... le premier, à la fin, j'étais en mode non quoi, donnez la suite et on n'était pas sûr qu'il y ait, c'était pas les Marvel quoi, on n'était pas sûr qu'il y ait une suite et tout. Et j'étais là, oulala, c'est trop bien.
C'est bien fait. Parfois c'est un peu chaotique. Parfois l'animation donne un peu mal au crâne. Parce que c'est genre tel personnage est animé avec pas la même frame rate que l'autre.
Parce et qu'ils sont pas dans la même dimension.
Ouais, du coup c'est un peu genre waouh le casse-tête. Mais c'est sûr que t'en as pour ton argent quoi un peu, tu vois. C'est
oui. On parlait de films qui ont pas honte d'être de la SF ou de qui ont pas honte d'être du post-apo.
Voilà.
Spider-Man,
ça
le Spider-Verse.
Ça a pas honte d'être un comic book movie quoi.
Ouais. Et d'être une œuvre d'animation qui joue avec tout ce que l'animation permet et c'est trop cool
qui fait à la fois office d'hommage à l'animation en fait tu vois avec aux différents styles d'animation et aux différents et tu vois pas la même color palette quand il parle de telle personne pas la même color palette quand il est dans tel monde pas la même color palette quand il est dans tel autre pas la même animation quand il est dans tel autre monde c'est assez cool je trouve il y a plein d'idées il y a mille idées à la seconde. Encore une fois, effectivement, je suis conscient que c'est un blockbuster, quoi.
Bah, disons que si c'était pas un Spider-Man, peut-être que ce film aurait pas eu le budget qu'il a eu, clairement. Non. Mais c'est pas juste un Spider-Man,
ça,
ça propose des trucs assez dingos, ouais.
Des fois, un petit peu trop, pop art 2023, un peu mauvais goût, mais cool quand même. Je sais pas, ça va, tu vois.
Ouais, ça marche. Et je trouve que c'est des films qui respectent l'intelligence du public, alors que c'est une histoire de dimensions parallèles, de multivers. Il y a plein de références à des trucs un peu niches des comics Spider-Man, genre Spider-Man noir, Spider-Cochon, choses comme ça. Bah, il y a plein de. Si tu connais que les Spider-Man du cinéma, tu connais pas ces personnages, ces versions-là. Et moi, par exemple, je connaissais pas du tout la petite, donc la version japonaise de la petite meuf vit dans un robot et le robot, il a l'âme de son père ou je sais pas quoi. J'étais là, oula, d'où on sort, c'est qui ça? Mais ça te prend pas par la main. Ça te présente plein de trucs avec plein d'indices visuels, etc. Et c'est une super histoire et c'est cool, quoi. Et au pire, tu le revois une deuxième fois pour mieux comprendre et tu kiffes.
Il y avait eu un espèce de Spider-Man déprimé aussi.
Oui.
Il y a toute une histoire hyper compliquée, apparemment.
Oui, il est hyper genre, lui, il est émo. Il est en mode, non, j'ai pas envie d'en parler. Je l'aime trop, il est dans le 2. J'espère qu'on va, c'est Ben Reilly. C'est Ben Reilly, j'ai un ami qui a tous ses pseudos sur internet inspirés de cette mouture de Spider-Man.
D'accord.
Et du coup, il était content qu'il soit dans le 2.
Histoire
et
de clone et tout, ça a l'air compliqué de ouf son histoire.
C'est un tocard.
Ça a l'air d'être un sacré délire. Et ils vont explorer des trucs intéressants. Voilà, on va voir. En tout cas, moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans celui d'après.
On a globalement confiance. Par contre, Birdseye, qui a l'air d'avoir plus suivi l'actu prod que moi, nous dit que 2025 voire 2026 pour Spider-Man 3 à cause, comme je pense, tu le dis, des grèves et de galères pour le coup. Oui, j'avais vu qu'il y avait eu sur le deuxième déjà des galères
des galères de
entre
payer les gens. Ouais.
Les scénaristes, les réals, l'équipe d'animateurs. C'est pas un métier qui est très protégé, animateur et animatrice. Donc bon, espérons que le film arrive dans des bonnes conditions pour les gens qui le font et qu'il arrive pas trop tard, bien sûr. En animation, moi j'ai Vice Versa 2 quand même, de Disney.
Ouais.
Ça sort mi-juin, c'était quand même sympa, Vice Versa.
Je l'ai pas mis parce que je me méfie des sequels Pixar.
Ok, t'as pas... Ouais, non.
À part Toy Story.
Bien sûr.
Mais tu vois, Finding...
Finding Dory.
La personne qui n'est pas Nemo, là.
Oui. Monstre University, tout ça.
Ah si, en fait, j'aimais bien Monstre University.
J'aime bien Monstre University, mais je crois qu'on est deux. Je crois pas qu'on est en majorité, en tout cas, en France. Parce que aussi, le 1 est vraiment très cher au cœur de plein de gens, mais j'aime
bien
le
préquel. Moi, quand je suis
sorti
de Monstre University, j'étais genre, waouh, ouais, le message est trop bien, ouais.
Ouais, il faut jouer avec ses forces à soi.
Ouais. J'étais vraiment genre, le message est bien et c'est un bon teen movie, tu vois.
Ouais.
Mais, c'est vrai que, bon, je sais pas, peut-être aussi parce que le design du nouveau perso est dégueulasse.
Je l'ai vu, mais je l'ai oublié. Attends.
La bande-annonse.
On se fait la bande-annonce de Vice Versa 2, ma foi. Hop là. Alors, en effet, audio description peut-être pour les gens qui nous écoutent en podcast. Dans Vice Versa 2 arrive une nouvelle émotion, l'anxiété.
Elle est mal dessinée.
Elle est chum à la race, c'est chum.
C'est mal dessiné.
On dirait un genre de tige orange avec une grande bouche. Type quartier d'orange, la coller sur sa gueule. Non, mais... Et des cheveux, genre...
On dirait un truc que tu dessines quand tu sais pas dessiner. On dirait un personnage que tu dessines quand tu sais pas dessiner. On dirait une marionnette dans... Du coup, c'est bien que ce soit l'anxiété, parce que...
Ouais, parce qu'elle est
C'est ce que
elle
ça me provoque
skin,
quand ça, je la regarde, en fait.
Sur le chat, il y a Coolix qui dit « Son chara-design me rend anxieux. »
Ouais.
On dirait un personnage des Zinzins de l'espace.
Ouais, exactement. Et on dirait un personnage, on dirait une mauvaise marionnette faite par des Français ou tu vois dans les années 80, tu vois.
Qui avait pas trop de budget et qui fumait des gaz dans le studio.
Salut, tu vois.
Un peu un Muppet sans budget.
Ouais, mais Muppet polonais, tu vois.
Je vais pas faire l'accent polonais, ça va être insultant pour tout un peuple dont fait partie mon amoureux, ce serait pas cool. Ouais, c'est pas ouf et je suis un peu en mode c'est bizarre de, peut-être parce que j'étais une enfant extrêmement stressée, mais je suis là, vraiment, l'anxiété, ça arrive pas à l'adolescence, hein. On peut être un enfant et connaître l'anxiété, donc c'est bizarre de, la nouvelle émotion de l'adolescence, c'est l'anxiété, je suis là, quid de, les hormones, non? Le cul, mais ouais, bon, c'est Disney, hein. Ouais. Et donc voilà, Riley, l'héroïne de Vice Versa, devient ado.
Il y a peut-être
au moins l'amour, quoi, un truc de, le crush, tu vois. Elle devient ado, elle va vivre les affres de l'adolescence, accompagnée de ses émotions, après avoir appris dans le tome 1 à maîtriser sa tristesse, sa joie, sa peur, etc. Voilà, c'est mignon, c'est vice-versa. J'ai tout un podcast avec Fab sur le sujet qui s'appelle Le Film Club. On a fait un épisode sur vice-versa, si vous voulez mon avis plus en détail, où je suis en mode, c'est ok, c'est bien que ça existe.
Ouais, c'est ok.
Je verrai le 2, j'aurai un avis dessus qui sera probablement, c'est ok, c'est bien que ça existe, voilà.
C'est ok.
Est-ce que t'avais d'autres films ?
Gladiator 2.
Gladiator 2. Le 22 novembre, c'est mon anniversaire, mais aussi Gladiator 2. Bon.
Avec Pedro Pascal. C'est juste parce qu'il y a Pedro Pascal.
Pedro Pascal,
je l'ai
on est ravis.
Je suis pas du tout attaché.
Et Denzel Washington. Moi, ça me clique.
Ouais.
Il y a Denzel. Et Denzel, il a une classe folle. Ouais, et j'ai bien envie de le voir dans Gladiator. T'aimes bien Gladiator?
J'ai commencé 5 minutes à regarder Denzel Equalizer en Sicile, là.
Ok.
J'ai lâché.
J'ai pas vu ça.
Ou c'est genre. Les Siciliens, vous allez pas me la faire à l'envers, ok?
Je suis Denzel Washington. Il a pas que des bons films. Mais quand il se lève pour taffer, il taffe Denzel quand même.
Ouais. Mais Gladiator 2.
Ça peut potentiellement être une cata, c'est improbable, j'en avais pas entendu parler. Pourquoi ce film existe? On peut dire que le chat est pas convaincu pour l'instant. Il y a Paul Mescal, en effet, tout à fait aussi.
Non, mais il y a Pedro Pascal, merde!
Ouais,
Pedro Pascal dans Gladiator 2.
Vous savez, le mec de The Last of Us, là, que vous aimez bien?
Non, ça va être cool. Ça va être cool.
Franchement, Ridley Scott, c'est hit or miss. Je sais pas si ça va être cool. J'aimerais bien que ce soit cool. Gladiator, c'est cool. Ridley Scott a fait des trucs très cool. Et Ridley Scott a aussi fait Prometheus. Voilà, on peut pas tout avoir dans la vie.
Non, mais Prometheus.
Le mec, il a fait Alien et après, il a gâché Alien quand même. Il peut gâcher Gladiator.
C'est vrai qu'il s'est un peu saboté. Prometheus, c'est pas satisfaisant.
Et la suite
mais
non plus.
Mais je pense que c'est peut-être pas de sa faute. Je pense que c'est peut-être de la faute de Damon Lindelof que c'est pas bien Prometheus.
Mais qui c'est qu'il allait. Mais il a fait la suite. Alien Covenant, ça a pas guéri Prometheus. Ouais,
Il a double down.
Il persiste tes signes. Tu sais que la première interview pro de ma vie chez mademoiselle.com, la vraie première interview pro de ma vie, c'était les bébés brunes, quand j'étais à la radio du lycée. la première interview pro de ma vie chez mademoiselle.com, on a step up un petit peu puisque c'était fucking Ridley Scott pour Seul sur Mars. Et j'étais là, en fait, genre, j'ai envie de crever, j'ai jamais fait d'interview vidéo de ma vie. C'est dans un hôtel 5 étoiles, le Bristol, où du coup, il y a beaucoup d'interviews qui louent des suites et tout. Ridley Scott, il a un certain âge, il articule pas beaucoup et il a un accent britannique à couper au couteau. C'était pour Seul sur Mars. Je lui ai posé une question sur la SF. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. Et après, il m'a parlé des zombies et du western. J'étais là, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Donc voilà. Ridley Scott, ça marche ou pas?
Tu sais que j'étais journaliste, moi, avant?
Oh.
Ouais.
Dans ta vie entre rappeur et DJ ou avant rappeur?
Avant rappeur.
Oh.
Au début de rappeur.
Ok. T'étais journaliste où?
Ouais. Un magazine papier qui s'appelait Radical.
Parce que t'étais déjà radical avec un K.
Absolument.
T'as interviewé qui?
Sur le chemin du Bristol à l'aéroport.
Ok.
Devine, t'as 3 essais.
Putain, c'était genre un magazine musical ou ça peut être n'importe quel?
C'était un magazine de rap.
Snoop Dogg?
Non.
Ok. Non, mais je suis pas bonne en date, mais Tupac, il était déjà mort quand t'étais jeune ou pas?
Ouais, il était...
Ok.
Ouais, je pense qu'au moment...
Eminem?
Ouais.
Eminem?
Ouais.
T'as interviewé Eminem? J'aurais eu trop peur d'interviewer Eminem.
Il y avait Eminem et Dre au Bristol, et Radical faisait la couve avec les deux. Et,
ah ouais, ça pèse quand même, quoi.
Et genre, il y avait plein de journalistes, et il n'y allait pas y avoir le temps pour que tout le monde fasse leur interview. Sauf que moi, j'avais capté le manager d'Eminem à New York pour un voyage de presse.
Tu t'étais glissé comme ça.
Et je l'avais capté, je lui avais parlé de trucs de nerd et j'étais genre, ouais, moi je connais des trucs.
Je suis pas comme les autres journalistes, moi. Je suis un vrai passionné.
Voilà, exactement. Il m'a reconnu, il m'a dit, toi tu montes dans la voiture avec Eminem et tu fais l'interview sur le chemin pour aller à Charles de Gaulle et voilà.
C'est comment d'interviewer Eminem dans les années 90?
Il est déjà un peu incel. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Il faisait des sons sur son ex-femme et tout.
Ouais, c'était l'album de Stan.
Ah ouais.
Mais
après,
Stan
c'est un banger en vrai. Ouais, hein. On va pas se mentir, ça a quand même inventé un mot quoi.
Ouais, mais j'aime plus Eminem aujourd'hui, mais et ça fait longtemps que j'aime plus Eminem. Ouais, c'est vrai qu'il a été important pour moi à un moment et cette interview était cool.
Très bien, bravo. Est-ce que vous préférez interviewer Eminem ou Ridley Scott? Je pense.
Non.
Je préfère Ridley Scott parce que. En plus, j'étais pas enfermé dans une voiture avec lui, tu vois. C'était plus cadré quand même, il y avait des caméras et tout. Bon, en termes de film, ça va peut-être pas être bien, mais peut-être ça va être bien, comme Gladiator 2. Nous avons Joker, Folie à deux, qui sort le 4 octobre. Alors. C'est quoi, t'as une take sur le premier Joker avec Joaquin?
J'ai jamais réussi à le regarder parce qu'on m'a tellement mis de choses dans la tête par rapport à ce film. On m'a tellement dit que c'était Incel Mania.
Oui, il y a eu tous les avis avant même qu'il sorte, il y avait tous les avis.
Non, en fait, c'est bien. Et moi, il peut un peu me saouler, Joaquin Phoenix.
Parce que des fois, il en fait beau. Il cabotine.
Ouais,
beau, quoi.
Voilà. Et donc, c'est jamais le bon moment pour moi de regarder. Encore une fois, parce que j'ai pas envie de déprimer en regardant un film.
Oui.
C'est jamais le bon moment pour moi de regarder The Joker.
C'est un peu le film, on vit dans une société, tu vois.
Ouais, exactement.
Mais ça, alors par rapport aux précédentes œuvres de son réalisateur, c'est étonnamment pas mal, visuellement.
Okay.
C'est vraiment, il y a Birdseye qui dit, je sais pas, c'est Incel Mania, mais c'est vraiment, mon premier film de Scorsese, tu vois, en atelier
pour
les enfants. C'est Taxi Driver. Mélangé avec King of Comedy, c'est vraiment le même film, avec une patte qui, pour moi, on dit plus sur l'industrie de l'hollywoodienne que sur le choix du réel, qui est Joker, je trouve, marcherait mieux si c'était pas un film Batman, parce que c'est un film sur un mec qui a une maladie mentale et qui est pas aidé, qui a pas accès à des soins et qui, du coup, devient dangereux. Mais ça n'a rien à voir avec le Joker, ça n'a rien. Il y a tout un truc avec Gotham City, la famille Wayne était là. Mais qu'est-ce que ça fout là? C'est pas du tout le sujet du film.
Ouais.
Donc, mais ça en dit beaucoup. Je pense qu'il est pas financé si c'est pas un film qui est une adaptation de comics quelque part. Donc c'est pas forcément de la faute de Joker s'il est obligé d'être un Joker. Du coup, le 2, a priori, tu pourras pas le voir si t'as pas vu le
1. Je sais pas. Sauf si tout le monde me dit, faut absolument aller.
Ok.
Moi, je suis un peu genre...
T'as un avis sur les comédies musicales?
Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Est-ce qu'ils disent que c'est bien? Bah non, mais bon, on n'a pas le temps d'aller au ciné, il faut bien choisir.
J'adore les comédies musicales.
Est-ce que tu sais que Joker Folie à deux est
une
comédie musicale?
Je sais, c'est pour ça que j'ai envie de, peut-être, par curiosité morbide, le regarder.
Ok. Avec Lady Gaga quand même.
Avec Lady Gaga.
Il y a quand même, voilà, deux choses au moins intéressantes. Comédie musicale avec Lady Gaga. Ok, moi je pense que j'irai le voir au ciné, mais principalement parce que j'ai pas détesté le premier. Et encore une fois, parce que tout le monde va en parler et que j'ai envie de savoir
ouais,
de quoi tout le monde parle.
Quoi. Du truc.
Et il y aura des takes féministes et tout dessus, ça va être intéressant.
Il me reste deux films.
Vas-y.
J'enchaîne.
Ouais.
Segway, comme on dit.
Je l'ai pas. Ah oui, non, je croyais que c'était le titre.
Non, non.
Segway, ça veut dire transition.
Transition.
Genre. Ouais.
Wicked.
Ok, eh ben écoute, avec une Ariana personne Grande. L'a cité sur Instagram et toi, vous êtes deux.
Avec Ariana Grande.
Yes, comédie musicale du coup.
Nanana, Defining Gravity.
Ah c'est ça, ben nanana, Defining nanana, Gravity, j'adore. Nanana, 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 nanana. Mais ça, je connais de Glee, tu vois.
Fun fact, je suis méga pote, j'ai sorti sur mon label... un gars qui fait de la musique électronique en Finlande.
Je sais pas où ça va.
Sa femme, c'est la meuf qui joue dans Wicked Finlande.
Ok, c'est niche. C'est niche. C'est comme si tu dis, je connais le cousin du gars qui joue Roméo dans Roméo et Juliette, Serbie. Ouais, ok, c'est, ouais. C'est pas la version originale. Ouais. Donc, Wicked, je sais que c'est Broadway.
Donc, la meuf verte, là. En
c'est
Finlande.
Le magicien d'eau, c'est ça?
Ouais. Okay. La meuf verte en Finlande.
Et bah, t'as signé son mec.
C'est Maria que je connais, je la connais.
Ouais.
Et voilà.
Je pensais un peu qu'à la fin de cette histoire, il y aurait Ariana Grande, tu sais.
Non.
Parce que dans le film Wicked, qui sort en fin d'année, je crois, il y a Ariana Grande
qui lèche tous les donuts et qui les remet à leur place.
Oui, car Ariana Grande a fait ça dans la vraie vie. Voilà, chercher Ariana Grande donuts. Il y a beaucoup d'avis sur Ariana Grande, la personne, sur Internet.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est Wicked? Pourquoi c'est cool? Moi, j'ai vraiment zéro connaissance
en
Broadway.
C'est la suite féministe. C'est Frozen, en fait.
Ah.
Tu vois, c'est
ou
genre...
la sorcière de l'Est et de l'Ouest,
voilà.
Elles sont ennemies à cause du patriarcat.
Voilà, exactement. Okay. Et en fait... Ça donne un autre point de vue sur la méchante de
comme Maléfique qui était voilà. Ok, je vois ou Cruella
avec des
ou
chansons
ça.
Reprises d'Anglie, tu vois.
Oui. Moi,
et
genre, vraiment culture glisse, oui.
On genre moi je kiffe, tu vois. Genre les chansons sont bien.
Non mais Defying Gravity. Banger sur banger, tu peux pas, t'es sous la douche, ça passe. Obligé, tu chantes, tu interromps ouais. Le shampoing, tu vois. C'est comme In the Air Tonight de Phil Collins. Tu fais la batterie quand il y a le solo, quoi. Bref, vous voyez, j'aime bien la musique.
C'est un proto Frozen et c'est la même chanteuse, absolument, ouais. Ouais.
Ah, donc, merde, comment elle s'appelle? Indila Menzel,
ouais,
qui a fait Let It Go, vous
ouais,
l'avez.
Ouais.
Elle est connue pour Frozen, pour Wicked.
C'est le fun fact.
Mm-hmm.
Let It Go.
Tu connais la version finlandaise.
Est composée.
Oui.
Par le frère de Chili Gonzalez.
Non. Chili Gonzalez, pianiste de talent, avec lequel Tequila Tex collabore régulièrement.
Un de mes meilleurs amis.
Abonnez-vous
un de mes meilleurs
Spotify,
amis.
Aussi.
Un de mes meilleurs amis.
Personne délicieuse de son état.
Christophe Beck.
Waouh. Rien à voir avec Beck, le
non.
Chanteur. Après, on se perd, hein, vous savez.
Christophe Beck, pour, soundtrack de Ant-Man et Ant-Man 2 et Ant-Man 3.
Ok.
Soundtrack de Vendavision.
Mais quelle famille de talent, finalement, c'est qui se
et
passe.
Lui, et frère de Jason Beck, aka Chili Gonzalez.
Ah, Chili Gonzalez s'appelle Jason Beck.
Absolument.
Des bars, je pensais pas du tout qu'il avait un nom à l'américaine.
Jason,
tout à fait. Ok, Wicked. Et t'as un dernier film, tu m'avais dit, tu vas
ouais,
en faire les
deux. Ouais, je l'ai noté pour la déconne.
Ok.
Ils font, et apparemment ce sera en fin 2024, décembre, ils font un... remake de Nosferatu.
Mon gars, je l'ai noté, j'ai trop hâte.
Avec Bill
Skarsgård. Ça sort le 25, c'est pour Noël. Joyeux Noël. Nosferatu, l'histoire de vampire. C'est pas genre un remake, mais moderne. C'est Nosferatu, l'histoire de vampire. Au cinéma, ils ont pas mis un twist dessus en mode « Ouais, mais c'est Nosferatu, mais dans l'espace ou dans le futur. » Non. Nosferatu dans un château dans la brume avec Bill Skarsgård.
Ouais.
Merveilleux.
Donc peut-être que ça va être cool. Au moins on va gaulerie. Au moins la bande-annonce sera gaulerie.
Ouais, ça va être drama.
Ouais.
Ça va se prendre. Mais moi j'aime bien le cinéma d'horreur, tu sais, un peu Bela Lugosi, un peu à l'ancienne
ouais.
Et tout. Ça... Parce qu'en plus je suis une flippette. Mais ça me fait pas
donc
peur.
Ça, ouais.
Je suis juste en mode oh c'est un peu gothique.
Ouais, Gucci.
Bill Skarsgård, c'est le frère Skarsgård qui jouait notamment le clown dans ça. Donc, il devrait pouvoir faire un monstre plutôt convaincant.
Il va juste avoir...
avec ce strabisme-là. Oh, bonjour Polygame sur le chat, j'avais pas vu. Bonjour Polo, c'est un copain. Il n'y a pas un remake de The Crow aussi cette année? Je crois pas que c'est cette année parce que je l'ai vu dans...
Je crois que c'est maudit et je crois que c'est, encore une fois, comme d'habitude avec les remakes de The Crow, ça, c'est mort.
Ouais, il y a moyen. Alors, moi j'ai noté, j'ai quelques autres films qui restent, je vais aller vite. Alors, un film dont personnellement je n'attends rien, mais il va peut-être être mieux que ce que je pense. Ils font une adaptation du jeu vidéo Borderlands, qui est un jeu vidéo, bon... Donc je suis pas familière, j'avoue, de l'univers et qui est un peu genre de mauvais goût, un peu prout des selles, on fait des vannes, tout okay, ça, tu vois, ça se prend pas au sérieux. Mais c'est alors
prout des selles.
Ouais, tu sais quand tu fais des prout des selles. Je sais pas faire les prout des selles en vrai. À l'équipe, dans l'équipe, à la réal, il y a Eli Roth qui est un réalisateur de films d'horreur, un peu série B, un peu pulp, quand même qui fait des trucs intéressants. Et il y a surtout Craig Mazin à qui on doit Tchernobyl et The Last of Us. Ouais. Donc je suis là, ah bah il réadapte un jeu vidéo. The Last of Us c'était pas mal. Et au casting il y a Cate Blanchett. Qui fait quand même parfois des rôles très sérieux et parfois elle joue dans des Marvel, dans Le Seigneur des Anneaux et tout. Donc à la base j'y croyais pas, mais j'ai vu Craig Mazin et Cate Blanchett, j'étais là peut-être, je sais pas si Nodus, tu es dans le chat, si t'es familier de Borderlands, voilà. Est-ce que ça a des chances d'être bien? Moi j'avoue je suis pas hyper chaude. Ah, Birdseye nous dit il a été repoussé plein de fois, il devait sortir avant le Covid. À voir si c'est bien. Et alors tout ça, c'est que des suites quasiment que j'ai notées. Ah oui, le 13 décembre. Sort un film, Le Seigneur des Anneaux. Le saviez-vous? Un long métrage, Le Seigneur des Anneaux, en animation. D'accord?
Ah ouais?
Oui. Pas, ils refont pas avec Viggo Mortensen, Aragorn et tout. Ça s'appelle The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, la guerre des Rohirrim. Et c'est avec, à la narration, Brian Cox, alias Logan Roy de Succession. Et la meuf qui joue, et la meuf qui joue Eowyn, qui reprend son propre rôle, aussi pour la narration de Eowyn. Donc je suis là, en vrai. Bah ouais, je pense que je vais regarder, c'est un film d'animation Le Seigneur des Anneaux, ça a l'air trop cool, il y a Brian Cox. Donc c'est un peu niche, mais je l'ai noté. Et après j'ai essayé deux choses. La première c'est de trouver des trucs qui sont pas des sagas ou des suites. Donc j'ai noté que le 19 janvier, très bientôt, il y a un film qui s'appelle The Kitchen qui sort, avec à la réal Daniel Kaluuya, qui joue dans Get Out notamment,
super, ouais.
Qui est un acteur et du coup maintenant réalisateur quand même très... Pour le coup, c'est la nouvelle génération qui m'intéresse, quoi. Ouais. Il est un peu plus vieux que Les Chamalets et Echo. Et c'est un thriller dystopique qui se passe dans des HLM à Londres, puisque Daniel Kaluuya est britannique. Et donc, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Donc voilà, ça s'appelle The Kitchen, ça sort le 19 janvier, donc très bientôt.
Avec une bande originale avec du drill dedans, probablement.
Probablement.
Une référence que tu n'as pas.
Si, je sais ce qu'est la drill. Ouais, c'est un genre musical avec... du rap un peu, mais aussi de l'électro, et c'est plutôt présent dans les quartiers populaires
londoniens,
urbains d'Angleterre, bien sûr, tout comme la UK Garage qui est plutôt de la house, alors que moi je pensais que ça allait être un truc hyper sale parce qu'il y a garage dans le nom, donc je croyais que c'était comme le garage rock, tu vois. Pas
non,
du tout.
C'est très classe, le UK Garage.
C'est très bien, bravo le UK Garage.
Vue, mais
je pense qu'on est dans une famille UK Garage friendly car j'habite avec Nodus. Et le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, il y a Love Lies Bleeding qui sort, qui est un film avec Kristen Stewart qui joue une taulière de salle de sport qui tombe amoureuse d'une femme bodybuildeuse, qui donc a des muscles de fou. C'est dans les années 80, je pense. Kristen Stewart a un mulet, la meuf a des biceps pas permis. Il y a aussi
Kristen
une histoire...
Kristen Stewart est bodybuildée? Non.
Non, elle joue la taulière toute skinny, toute cusse de la salle de sport parce que c'est Kristen Stewart. Et elle entraîne, enfin, elle accueille du coup cette bodybuildeuse qui s'entraîne et elle est là, Et il y a un peu un côté Thelma et Louise, Bonnie and Clyde, parce que la bodybuildeuse, un mec de sa famille qui est joué par Ed Harris, qu'on adore. Tu sais, c'est le vieil acteur, c'est le mec de Westworld, le vieux de Westworld avec son chapeau noir, là.
Ah ouais, d'accord.
Avec ses yeux bleus glaciers, là. Bah, il joue un membre de la famille de la bodybuildeuse qui apparemment traîne dans des trucs criminels louches, tu vois. Donc il y a aussi un côté un peu mafia, un peu machin, amour interdit, sulfureux. Kristen Stewart avec un mulet et un Marcel qui regarde la petite go assise sur le capot de sa voiture. Je suis là. Ok. Je pense qu'on va passer.
BO de
un bon moment.
Du groupe Texas.
Peut-être. Ça marcherait bien. Et après, j'ai essayé de trouver des films français parce qu'il y a vraiment zéro film français dans nos sélections.
C'est bien, ça, c'est
Je suis désolée, j'ai fait de mon mieux, j'en ai trouvé deux. Alors, un qui me hype pas, mais ça hype
c'est
des gens.
Gad Elmaleh et Laurie.
qui jouent des pandas. Non, il y a un Dupieux, Dali, avec plein de points d'exclamation,
Miss
sur Salvador Dali.
Shit.
Voilà, un nouveau Dupieux. Dupieux, c'est pas mon univers. L'absurde, ça me parle pas. Voilà, désolé. Mais c'est quand même un réal qui propose des trucs. En France, ça sort le 7 février. C'est avec Jonathan Cohen, entre autres, qui joue Dali, le Salvador Dali, lui-même, avec la moustache. Voilà,
pas casting... 15 personnes différentes qui jouent Dali ?
Si, il y a un casting royal de plein des acteurs et actrices français et francophones que vous kiffez en ce moment. C'est Dupieux, c'est pas une biographie de Dali premier degré parce que c'est Dupieux. Donc oui, je pense que ça va être plutôt surréaliste parce que c'est Dali et aussi c'est Dupieux. Voilà, probablement que si vous aimez Dupieux, ça va être bien. Je vous le souhaite. Perso, j'aime pas trop. Enfin, ça me parle pas. Et alors, ça, je savais pas du tout. Mais en octobre, il y a un film de Grand Corps Malade qui sort. Enfin, co-réalisé par Grand Corps Malade. Attends. Qui
tu
s'appelle.
Tu me fais un
Dupieux Grand Corps Malade.
Un Dupieux Grand Corps Malade, là. Tu me fais un
J'ai
essayé
de trouver des films français, je te dis. Au moins, je parle pas du Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, mentionné dans le chat, qui m'énerve déjà. Voilà, j'en peux plus de Pierre Niney. J'adore le Comte de Monte Cristo. Je pense que ça va pas être bien, le film. Donc, en octobre, un film de Grand Corps Malade qui s'appelle Monsieur Aznavour. Une biographie de biopic de Charles Aznavour. Mais Charles Aznavour est incarné par Tahar Rahim, l'acteur français dont je suis le plus in love du monde, évidemment, qui est un très bon acteur, qui était dans Un prophète de Audiard, entre autres, dans Le Serpent, là, une série il y a quelques années. Voilà, il est hyper bon dans ce qu'il fait. Aznavour a quand même une vie intéressante. Why not? Est-ce que ça risque d'être un biopic dégoulinant de bons sentiments à la française, avec des remixes d'Aznavour par Grand Corps Malade? Oui. Est-ce que j'irai peut-être avec mes parents? Tu vois, je me dis, sorti voilà avec mes parents au ciné.
Est-ce que pendant la promo, Grand Corps Malade va dire, Aznavour, c'était le premier rappeur, non? D'accord.
C'est possible. Vous savez qu'il a été samplé par quand même des gros rappeurs américains. Bref.
Ouais.
Peut-être.
Ah oui,
mais tu vois, nous on est snob. Peut-être mes parents, ils savent pas que Dr. Dre il a samplé Aznavour dans leur vie. Ils vont apprendre, ils vont être là. Mais attends, tu sais pas ce qu'on a appris
à la
télé.
Non, mais moi je serais content de voir un biopic d'Aznavour réalisé par n'importe qui, sauf Grand Corps Malade.
J'entends. Par Dupieux.
Ou Quentin Dupieux.
En vrai. Non, mais Dupieux qui ferait un biopic d'Aznavour,
non.
Pourquoi pas?
Non.
C'est plus décalé que Dupieux qui fait Dali, tu vois. Oh! Pour l'audio description, Tequila Tex a mis son pouce vers le bas. Voilà, on a fait le tour des films de l'année. Citons, voilà, quelques films ont été cités sur Instagram et on n'en a pas parlé. Il y a Poor Things, Pauvre Créature, le nouveau... Merde, comment il s'appelle?
On n'en a pas parlé parce qu'ils sont sortis aux États-Unis déjà.
Oui, bah lui, il sort en France là. C'est avec Emma Stone, c'est le nouveau Laurentimos, comment il s'appelle? Aidez-moi le chat. J'ai pas vu ses autres films, mais je sais qu'il est très respecté comme réalisateur de la nouvelle génération.
C'est très controversé, ce film.
J'ai l'impression que tous ses films, c'est le gars qui avait... Laurentimos, merci beaucoup. C'est le gars qui avait fait The Lobster, etc. C'est... Ça passe ou ça casse, quoi. Soit les gens adorent, soit ils détestent. Donc, voilà. Pauvre créature. Il y a Mickey 17, le nouveau
film.
Pour
Things, pour créature.
Oui, pour
Par Things. Contre, ça va être un gros carton aux Oscars, je pense.
Oui, il y a moyen.
Ça va être un gros carton. Et
mais comme ses précédents films, il y a La Favorite, effectivement.
Ça va être un carton critique de malade.
Ouais. Mais voilà, les critiques adorent.
Je vois un buzz de fou sur les gens que je suis
dans nos timelines.
Ouais. De buzz de fou.
Mais en termes de grand public, pas forcément. Il y a donc Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, à qui on doit Parasite, avec Robert Pattinson, ma star. Mais alors, il était prévu pour avril de cette année, je crois. Il a été modifié à... Je sais pas quand il sortira quand j'ai envie, par Bong Joon-ho. Certains parlent, ok, il va peut-être le sortir à tel moment pour Cannes, pour les Oscars, pour machin. On verra, mais peut-être... A priori, il est bien avancé, le film. Il y a une bande-annonce et tout, donc... Bon. Voilà. Birdseye nous dit c'est obligé qu'il sorte à Cannes. C'est ce que disent les gens. Rappelons que Parasite avait tout cassé à Cannes. Donc peut-être au printemps, Mickey 17. Et Iron Claw, qui a été mentionné sur le chat et sur Instagram, que j'ai... Alors Iron Claw, c'est un film avec Zac Efron.
Sur des catchers.
Ouais, tout à fait. Avec Zac Efron et Jeremy Allen White de The Bear, le Instagram boyfriend de tout le monde en ce moment, qui joue des catchers dans les années 80. Il y a beaucoup de muscles, beaucoup de masculinité sensible. Et
ouais,
j'ai
mais en même temps, c'est un art film.
Comment
c'est
ça,
un film arty, quoi.
Ah oui. C'est un peu un film indie. C'est pas un gros film de catcheur pour l'amour du catch. C'est pas un gros blockbuster.
C'est catcheur arty, quoi.
Ouais, on va parler des émotions et de la masculinité sensible et du rôle des pères, je pense, dans tout ça.
Ouais.
Et il y aura sûrement un sous-texte un peu homo-érotique à un moment. C'est très attendu, en partie parce que Zac Efron et Jeremy Allen White sont deux des mecs les plus en vue du moment. Et perso, j'ai la chance d'aller à l'avant-première organisée à Paris ce jeudi. Voilà, donc je vais très vite savoir si c'est bien. Je vous le dirai, ça sort très vite aussi.
Très bien.
On a fait le tour des films. On va passer aux séries. Est-ce que tu as besoin d'une pause?
Oui.
Ok. Eh ben, on va faire 5 minutes de pause. Ensuite, on passe aux séries télé. On risque d'en avoir deux ou trois en commun. Et après, on parlera vite fait jeux vidéo et vite fait musique. Mais ça sera.
Non, mais les gens, ils vont pas éteindre le chat. Non. Les séries.
Vous allez. Bah non. Parce c'est pour ça que j'ai mis les séries en deuxième, ouais, tu sais. Parce que je me suis dit, sinon tout le monde va partir après.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma, le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.